and have yourselves a good one. Something tells me you've earned it, folks. We'll see you next week.
Avec un crisse de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous connaissent pas et qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pantoute, c'est comme le Kansas que Dorothée veut donc retrouver tout le long de son épopée à Oz parce que, tu sais, home is where your heart is.
Oh. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue réalisée avec la sexologue et psychothérapeute Maëlie Giroux-Dubois, avec qui on s'attarde à la façon dont on construit nos relations et aux barèmes relationnels imposés par les limites et besoins des différents individus.
Puis, on va conclure avec une participation spéciale mais récurrente de Tout ou Pantoute revisité à la fin de l'épisode, une collaboration qui nous fait bien triper puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre.
On commence cet épisode-là, drette-là, à la vitesse où Steph accumule les pères pour ses enfants dans la galère. Puis non, on la juge pas, c'est notre personnage préféré.
Oui.
Ici Alexandra Turgeon, en direct de Trois-Pistons au bord du fleuve.
Et Laurie Perron, en direct de Villeray dans la Grand-Ville. Vous écoutez...
Tout ou pantoute!
Si l'invité du jour a un rapport professionnel au thème de la construction des relations, pour moi, elle y est aussi très intimement liée. Maëlie Giroux-Dubois est sexologue psychothérapeute, cofondatrice de la clinique de sexologie Perspective, située à Québec. Elle a pratiqué comme travailleuse sociale et pratique encore à titre de sexologue dans plusieurs organismes communautaires. En 2018, elle a participé à la création du livre « La couleur de l'adoption », qui est le premier livre de portraits de personnes adoptées réalisé par des personnes adoptées, que vous pouvez vous procurer au lien que je vais mettre aussi dans les notes de l'épisode. L'an dernier, on a pu l'entendre au podcast « Where We At Montréal », qu'on aime beaucoup.
Oui.
Et accessoirement, mais vraiment pas tant que ça, à cause du contexte du thème de l'émission, c'est une de mes plus vieilles et proches amies, et ça, depuis le secondaire, ce qui fait de notre amitié une relation super fondatrice de ma vie encore à ce jour. Fait que ça me fait particulièrement plaisir que ce soit elle qui va parler avec nous aujourd'hui, mais je vais me taire pour qu'on l'écoute. Alors, c'est parti! Bonjour Maëlie, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de me recevoir.
C'est la première fois qu'on reçoit une sexologue au podcast. Fait que je me disais que question de laisser le temps aux auditoristes d'apprendre à te connaître tranquillement, je pouvais peut-être te demander de nous faire un petit topo de c'est quoi ton métier, puis qu'est-ce qui t'a amené là, c'est quoi un peu ton approche et tout ça. Là. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Une belle et grande question. Alors oui, effectivement, je suis sexologue psychothérapeute depuis quelques années, 2 ans et demi déjà. Fait que moi, aujourd'hui, je travaille en partie dans le communautaire, ben dans la région de Chaudière-Appalaches, en fait, auprès des délinquants sexuels. Mais la majorité de mon temps, c'est vraiment à la clinique que j'ai fondée avec une de mes très grandes amies, qui est aussi sexologue psychothérapeute. Je travaille beaucoup auprès de la communauté LGBTQ+, qui est évidemment une belle continuité des implications que j'ai toujours eues dans la vie, entre autres au Gris Chaudière-Appalaches. Mais je travaille aussi beaucoup en victimisation aussi. Sur le plan sexuel, entre autres, mais sur les plans de la violence, de façon générale. Sinon, ben, les motifs sont super variés. Là. On parle de difficultés relationnelles, on parle de dysfonctions sexuelles aussi, ou de toutes sortes d'enjeux qui touchent la naissance, les ITSS, bref, tout ce qui se rapproche de la sexualité et la relation aussi, de façon générale. Sinon, en termes d'approche, ben moi, la posture principale, c'est évidemment la posture humaniste existentielle parce que ça rejoint exactement ce que j'ai toujours pensé de beau chez l'humain, quoi que ce soit qu'il y a les ressources en lui et en elle pour avancer dans la vie. Fait que le travail dans cette posture-là, c'est vraiment d'amener les personnes à devenir le plus conscient et consciente, finalement, de ce qui les habite. Et donc, de développer aussi une belle capacité à reconnaître puis à identifier les émotions qui passent à travers eux pour éventuellement les amener vers une prise de décision dans la vie, dans toutes les sphères. Mais des décisions qui sont libres, qui sont éclairées, évidemment, et qui parlent aussi beaucoup de la personne et de ce qu'elle est et de ce qu'elle ressent, finalement.
Tu parles de sexologue, psychothérapeute. En fait, les sexologues, dans le fond, sont formés pour la psychothérapie en général, mais spécialisés en tout ce qui a trait à la sexualité. Est-ce que je comprends bien?
Oui, exactement, mais pas tous et toutes les sexologues. Ceux qui font le baccalauréat sont formés en accompagnement, en soutien, en relation d'aide. Et ce qui permet vraiment d'accéder au permis de psychothérapie, c'est la maîtrise clinique qui la suit, finalement.
Merci pour la clarification. Maintenant, je nous amène direct dans le vif du sujet, parce que l'épisode d'aujourd'hui parle de construction des relations, en gros, de comment on fait pour bâtir des relations saines. Fait que ma première question dans cet angle-là, ce serait, disons, quelles bonnes pratiques on peut instaurer pour se donner le plus de chances possible de vivre des belles relations épanouissantes?
Ça aussi, c'est une belle grande question. sur le plan théorique, qui se répond entre autres avec l'approche systémique, que nous, on utilise aussi en psychothérapie, dans le concept de la différenciation, qui est finalement l'opposé de la fusion relationnelle ou de la dépendance affective, là, dans des termes plus vulgarisés, finalement. Ce que ça implique d'être une personne différenciée, c'est de devenir, malgré qu'on soit en interaction avec l'autre, de maintenir son sens de soi, de maintenir son individualité, puis à être sa propre personne, finalement, à travers ça. Fait que ça veut dire qu'on sort, à quelque part, d'une certaine tendance au sacrifice de soi, on fait de la place à ses propres besoins, à ses propres intérêts, à ses propres opinions aussi. Ça veut dire qu'on apprend à tolérer le fait qu'il y a des différences dans notre façon de ressentir puis d'appréhender le monde et les situations versus les visions finalement que nos partenaires pourraient avoir. Ça veut dire aussi d'apprendre non seulement à, encore une fois, aller en soi pour reconnaître ce que la relation nous fait vivre, mais accepter aussi que l'autre puisse avoir une certaine réactivité dans les situations relationnelles de façon générale. Fait que oui, on apprend, nous, dans ce qu'on est, dans nos patrons relationnels aussi, qu'on développe à partir de l'enfance, évidemment, mais on apprend aussi d'où vient notre partenaire pour développer une meilleure empathie, d'abord, par rapport au parcours que lui aurait eu, mais aussi pour éventuellement apprendre à dépersonnaliser les conflits, puis à faire une distinction, finalement, entre ce qui appartient aux blessures de chacun et ce qui appartient à la situation qu'on est en train de vivre.
Ouais, full intéressant. Je me demande aussi, bon, je pense que ça étonnera personne qui écoute le podcast, là, j'en parle non-stop, du fait que moi, personnellement, je suis polyamoureuse. Puis un élément qui ressort souvent dans mes discussions avec des amis, quand on parle de monogamie ou de non-monogamie, c'est que ces personnes-là trouvent les discussions autour des barèmes relationnels vraiment trop compliquées puis trop fréquentes pour rien. Mais moi, c'est la partie qui est la plus rassurante pour moi dans une relation, même si ça implique plein de réflexions. Puis je pense que même sans ces discussions-là, c'est dur de savoir identifier à quel type de relation on a affaire dans vie. Fait que là, je me disais, pour les mêlés d'entre nous, que tu sais que j'en fais partie, c'est pas nouveau. Comment on fait pour différencier les différentes formes de relations de proximité, tu sais, de sororité ou adelphité? J'essaie d'intégrer adelphes, mais j'ai de la misère, mais on va y arriver. Amitié, amour, etc. Comment on fait pour différencier tout ça? Puis est-ce que c'est important de savoir les identifier pour les vivre sainement ou pas tant que ça?
Je pense que j'accroche plus dans la deuxième partie de ta question parce que, ben, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue à ça. Je pense qu'il y a vraiment un processus qui est unique, qui est individuel à chaque personne dans la façon de se définir dans ses relations. Mais je pense aussi que, tu sais, de définir la forme de la relation, ça passe nécessairement par une espèce de processus d'étiquetage. Puis ça, ben oui, c'est vrai que ça peut être utile, ça peut être rassurant pour certains, ça peut mettre des mots sur des expériences, mais je pense que ça peut aussi emprisonner. À certains moments, ça peut devenir étouffant. Fait que pour moi, la stratégie à aller privilégier là-dedans, finalement, c'est d'être honnête d'abord avec soi dans la façon dont on se sent dans la relation et avec l'autre. C'est dans la mesure du possible aussi d'être transparent puis d'être sincère dans la nature de ces relations-là. Puis finalement, d'être capable de les exprimer à l'autre pour s'assurer que tout le monde consent un peu, finalement, à cette forme relationnelle-là. Puis, quitte à ce que ces fameux barèmes relationnels-là soient établis dans l'absence de barèmes ou dans des barèmes qui sont plus exploratoires, tu sais, parce que je pense que l'esprit humain a tendance à avoir besoin de certitudes puis à avoir l'impression que c'est juste ces certitudes-là qui méritent d'être verbalisées entre lui et l'autre. Mais j'ai le goût de remettre ça en question, tu sais, puis de se permettre d'être libre dans cette exploration-là aussi, quitte à justement réouvrir la discussion plus souvent, mais que se permettre d'être plus libre puis d'être plus, plus instinctive aussi avec ce qu'on ressent dans le moment présent, finalement.
De toute façon, on change individuellement de jour en jour, fait que c'est dur de croire qu'on va vouloir la même chose aujourd'hui que dans 3 semaines, que dans 8 ans. Là.
Exact.
Puis une autre chose qui peut être difficile des fois, je pense, au niveau relationnel, c'est la gestion du temps. Les journées ont quand même 24 heures, les semaines ont quand même 7 jours, puis les besoins de tout le monde sont différents en termes de temps qu'on accorde à une relation, pas juste en non-monogamie, mais dans la vie, tu sais, entre une amie qui devient en couple du jour au lendemain alors que tu passais la totalité de tes journées avec, ben là, quelqu'un peut se sentir un peu mis de côté, rejeté, ou des partenaires amoureux qui ont réellement besoin de la quasi-totalité du temps de leur partenaire pour être confortable. Comment on fait pour trouver l'équilibre dans tout ça puis arriver à s'investir pleinement dans plusieurs relations sans négliger les autres? Ça se fait-tu?
On espère que ça se fait. Puis encore une fois, moi, je pense que tout part de la communication puis du consentement aussi dans cette optique-là, parce que, tu sais, à la base, je pense qu'on a tous et toutes à apprendre à vivre avec l'idée qu'il y a des fluctuations normales aussi au courant de la vie, dans l'investissement qu'on fait de certaines relations à un moment X aussi dans notre parcours de vie. Je pense que le premier piège à éviter, selon moi, c'est de le garder pour soi. Cet inconfort-là, tu sais, quand on se sent négligé, on pourrait avoir tendance à le taire pour des raisons qui nous appartiennent, mais aussi à les interpréter, ces distances-là ou ces absences-là. Puis ça, bien, évidemment, on les interprète en fonction de notre cadre de référence. Puis des fois, c'est ça qui nous maintient dans la souffrance, tu sais, alors que peut-être que là où les autres partenaires demandent juste à pouvoir réagir à ça, réaligner le tir, puis nous ramener vers peut-être quelque chose de plus doux.
Ouais.
Ceci dit, ça se peut que non aussi. Fait que si on s'engage dans ce processus communicationnel-là, je pense qu'il faut aussi tolérer le risque d'avoir une réponse qui est peut-être difficile à entendre. Mais pour qu'une relation, à mon sens, fonctionne bien, je pense qu'on se doit de s'accorder le droit de s'exprimer ces choses-là. T'sais. Cette distance-là, ce manque de temps ou d'énergie pour s'investir à la hauteur des attentes de l'autre, mais des fois, juste d'avoir ça en tête, puis que notre ou nos partenaires aussi puissent le conscientiser. Des fois, c'est tout ce qu'on a besoin, tu sais, pour réaligner le tir, finalement. Fait que, bref, je pense que dans toute relation, on a la responsabilité, en fait, de se responsabiliser pour la façon dont on se sent, pour amorcer ces discussions-là, même si elles peuvent être vraiment difficiles.
Ouais.
Voilà, de se laisser être libre là-dedans, d'accepter que les mouvements sont inévitables aussi dans cet investissement-là. Ça a l'air facile à dire de même, mais c'est souvent un objectif central aussi de ce qu'on travaille en psychothérapie, tu sais, d'avoir accès à ça, d'être capable de départager encore une fois ce qui appartient nous à nos blessures émotionnelles du passé, puis ce qui appartient aussi à la relation, puis de négocier le tout.
Ouais, parce que c'est clair que vaut quand même mieux en parler puis savoir à quoi s'en tenir, même si la réponse est potentiellement « ouais, j'en ai plus de temps, faut qu'on réenligne ». Mais quand ça arrive, si ça arrive, tu parles beaucoup de, tu sais, reconnaître qu'est-ce qui est à nous dans notre souffrance ou qu'est-ce qui est aux autres. Si ça nous arrive de se sentir délaissé, mis de côté, ou si, en fait, en abordant la conversation, la réponse est en effet que la personne ne pourra pas nous accorder plus de temps puis qu'il faut revoir la situation. Si ça ne nous convient pas, comment on fait pour gérer ces émotions-là puis guérir un peu ces sentiments-là qui montent en nous face aux actions de l'autre ou même juste à la situation? T'sais, comment on est empathique envers nous-mêmes là-dedans? Comment on se soigne?
Ben, je parlais de différenciation tantôt. Je pense que la première clé là-dedans, c'est d'être capable d'avoir accès à ça, même si c'est désagréable, d'une part. Mais c'est aussi de développer différentes stratégies d'auto-réconfort. T'sais. Parce que, oui, on est des êtres de relation, on sera toujours les uns les autres en interaction, puis on pourra beaucoup s'entraider. Mais il y a aussi des moments où on sera encore une fois, un peu les seuls responsables de cette émotion-là. Fait qu'à ce moment-là, trouver des stratégies pour se faire du bien, tu sais. Parce que oui, on passe beaucoup de temps en introspection à réfléchir à comment on se sent, c'est quoi le rôle de nos interprétations dans ces ressentis-là. Mais vient un temps aussi où toutes ces pensées-là ont atteint leur maximum de potentiel d'utilité. Puis là, il faut comme se mettre en action vers quelque chose qui va nous distraire, nous changer les idées, mais qui va être bon pour nous aussi. T'sais.
Ce que j'en comprends, tu peux me dire si je me trompe, c'est quand même que la communication, ça reste au centre des relations épanouissantes et fonctionnelles.
Tout à fait.
Puis, parce que j'ai l'impression que tous les trucs qu'on nomme au final sont des trucs pour justement apprendre à reconnaître assez ce qu'on ressent pour pouvoir le communiquer puis accepter ce que l'autre a à communiquer. Mais je me demande si ces trucs-là qu'on met en place pour mieux gérer nos relations, parce que je trouve qu'on est aussi en relation avec nous-mêmes, puis des fois, il y a des situations conflictuelles à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Puis je me demande, c'est-tu les mêmes trucs? Est-ce qu'on essaie de donner de l'empathie encore à la partie de nous qui est donc ben pas bien, tout en restant dans la partie qui a besoin de quelque chose? Je sais pas. Est-ce qu'on fait les mêmes trucs de communication à l'interne?
Absolument, le plus possible. Puis c'est drôle parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans une espèce de conflit interne avec nous-mêmes, il y a un débat qui s'installe. Puis ce que je dis souvent à mes clients, puis je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça important, c'est que toutes ces informations-là dont on a besoin souvent pour régler ce débat-là, encore une fois, se retrouvent dans nos émotions. On est socialisé des fois à mettre ça de côté, on est socialisé des fois à apprendre que les émotions, c'est synonyme de fragilité, de vulnérabilité, de quelque chose de malsain ou de pas bon, mais en fait, il y a de l'information tellement riche sur ce qui est important pour nous dans nos émotions. Là. Fait que les fameux « arrête de pleurer, calme-toi », oui, on les intériorise, mais il y a vraiment un travail de déconstruction de ces croyances-là qui est à la base de cette bonne relation-là avec soi-même, puis une relation empathique, tu sais, comme tu dis.
Ça me fait penser à l'adage un peu de comme « il faut s'aimer avant de pouvoir être aimé par les autres », que je trouve qui est souvent un petit peu limite élitiste, là, parce que c'est quand même difficile de s'aimer à 100% nous-mêmes avant d'être aimé, mais c'est quoi ta vision de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'on doit faire le travail sur nous-mêmes avant de pouvoir entrer dans des relations, ou ça peut se faire tout en même temps?
J'ose croire que ça peut tout se faire en même temps. C'est sûr qu'un adage comme ça, c'est à mon sens un peu réducteur. C'est comme une espèce d'idéal vers lequel on peut tendre un peu toute notre vie, mais qu'on n'atteindra jamais, finalement. C'est une espèce d'idéal un peu trop utopique. Je pense que, oui, il y a une partie de nous qui doit apprendre à s'aimer suffisamment, puis pour moi, c'est synonyme de trouver que nos émotions sont valides, t'sais. Trouver que nos besoins sont légitimes aussi, parce qu'avant de pouvoir les exprimer, évidemment, il faut être capable de les reconnaître nous-mêmes comme étant des choses qui méritent finalement d'avoir une attention. Ouais, ça répond à ta question.
Ouais, full. C'était une question floue, je voulais rien que savoir ce que t'en pensais. Mais on en parle beaucoup de l'importance de ça aussi. On en a parlé aujourd'hui, mais on en parle beaucoup dans les milieux féministes puis dans les milieux queer, de l'importance de nommer ses limites, nommer ses besoins. Puis ça revient souvent, mais on dirait que je me demande, y a-t-il des trucs concrets ou comment on fait pour justement les reconnaître en nous, parce qu'il faut toujours bien commencer par là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « je le sais pas, moi, si j'en ai des limites », comme moi, par exemple?
Par exemple. Bon, au risque de me répéter, tu vas peut-être me trouver tannante avec ça, mais je pense que l'énergie, puis ce dont on a besoin pour tendre vers l'affirmation de soi, c'est un accès spécifiquement aux émotions, oui, mais à la colère, entre autres. Encore une fois, socialement, surtout chez les personnes socialisées comme femmes, on se fait dire que c'est pas beau, ça. Parce que la colère, des fois, c'est associé à l'agressivité ou à la violence, ou c'est comme perçu comme un contraire au fameux caring qu'on nous demande, finalement. Mm-hmm. Mais la colère, elle est saine dans la mesure où elle nous apprend quand il y a une frontière ou une limite qui est dépassée ou quand il y a un besoin qui est frustré ou qui est non comblé. Ce qu'on associe souvent à la colère agressive, c'est le comportement qui suit. Ça, je suis d'accord. Évidemment, c'est pas une bonne façon de se réguler dans sa colère.
Ouais.
Mais de la ressentir, ça, par exemple, c'est essentiel.
Pour nous enligner un peu vers la fin, métaphoriquement, je nous enligne aussi vers une fin de relation parce que, veux pas, ça arrive, tu sais. Puis c'est pas nécessairement malsain de vivre des fins de relation, ça fait juste partie de la vie relationnelle, mais c'est difficile pour pas mal toutes les personnes impliquées quand ça arrive. Ce serait quoi tes trucs à toi pour se remettre en douceur d'une fin de relation?
Ben, moi, je pense que la première porte vers laquelle on peut se diriger pour trouver une forme de réconfort dans ces fins-là, c'est la façon qu'on interprète le sens de cette fameuse finalité. Parce qu'on pourrait envisager, en fait, une relation comme une rencontre d'individus qui partagent une intimité à un moment X, mais, comme on se disait tout à l'heure, qui se permettent d'évoluer. Ce qui fait qu'à un moment donné, à un moment Y, ça se pourrait, tu sais, que l'un ou l'autre de ces partenaires-là n'en retire plus nécessairement quelque chose puis décide de poursuivre leur chemin ou leur route idéalement riche de ce qu'ils ont appris dans cette relation-là.
Ouais.
Bon, ça a l'air facile à dire comme ça, mais il arrive aussi des moments où les individus ne s'entendent pas sur le fait que la relation ne sert plus, mais tu sais, je pense qu'entrer en relation, c'est aussi prendre le risque de traverser des émotions qui sont parfois désagréables, même très souffrantes, mais qu'on peut travailler à mettre un peu notre ego de côté dans ce qui nous a blessés, puis se dire que si on aime suffisamment et bien cette personne-là, si on la respecte aussi assez, on lui laisse le choix de partir quand il ou elle en ressent le besoin, finalement. Si, par exemple, toi, tu décides de partir de la relation, évidemment, je vais être triste parce que je considère encore que cette relation-là, elle m'apporte quelque chose, que cette relation-là est encore riche, mais juste par le fait que je vais t'avoir accordé cette liberté-là de partir, moi, déjà, je vais me sentir mieux dans le principe relationnel que moi, je valorise à travers tout ça, finalement.
Ouais, c'est beau.
Ça veut dire que si quelqu'un décide de mettre fin à cette relation-là, ça ne peut pas être complètement imputable à l'un ou à l'autre.
Mm-hmm.
Ce qui met fin à une relation, c'est l'incompatibilité, encore une fois, à un moment X, des deux parcours ou des parcours individuels qui se rencontrent à ce moment-là, puis qui parfois s'entrechoquent aussi dans les directions que chacun décide de prendre.
On a souvent tendance à chercher qui a eu tort ou qu'est-ce qui a causé la fin, mais finalement, il n'y a pas toujours un événement ou une personne en particulier qui a fait quoi que ce soit.
Exact. Des fois oui, des fois non.
Je pense qu'on devrait toujours, un peu tout le monde, se donner une petite tape dans le dos pour puis réaliser que c'est pas parce qu'on a une relation qui finit qu'il n'y en a pas plein d'autres autour qui marchent depuis super longtemps, que ce soit nos relations de travail, que ce soit nos relations avec nos frères, nos sœurs, nos cousins ou nos amis proches, c'est pas une rupture amoureuse qui va nous enlever ça puis qui va nous enlever la capacité de maintenir des relations, je pense.
Absolument.
On est capable, la gang! Merci tellement, Maëlie, pour cette entrevue-là. Toi, Alex, est-ce que Maëlie t'a fait autant de bien qu'à moi dans cette entrevue-là? Parce que j'en reviens pas.
Tellement, là!
J'ai le goût de commencer notre débriefing direct avec un quiz, Alex. Un quiz d'une seule question. ma question est la suivante. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on est plus enclin à vouloir rencontrer des gens puis créer des relations?
J'ai le goût de dire, mais peut-être que je fais de la projection, là, sûrement, mais j'ai le goût de dire la confiance en soi.
Eh bien, non! Mais c'est sans doute un des facteurs. Mais au moins 5 grandes études qui sont citées dans le texte de Claire Bidard qui s'appelle « Les âges de l'amitié, cours de la vie et forme de la socialisation » qui d'ailleurs, parce que là, je tiens à intégrer une nouvelle pratique. À partir de maintenant, plutôt que vous dire à chaque fois que je vais mettre les trucs dans les notes de l'épisode, j'aimerais qu'on ait un petit son. Il suivra cette habitude que vous avez peut-être tous pris comme nous en étant jeunes. Quand tu entendras ce son, les notes seront en bas de page, plutôt que tourne la page. OK, je reprends ma phrase parce que là, c'est sûr qu'il n'y a plus aucun sens, mais tout ça pour vous dire que la variable la plus déterminante pour la sociabilité en général, selon plusieurs grandes études, c'est l'âge.
Ah oui! OK. Ouais.
Puis avec l'avancée en âge, la taille du réseau de relations personnelles diminue.
Huh. Ben oui.
La fréquentation des membres du réseau de relations aussi. Puis devant ce fait quand même effrayant et surprenant, je me suis dit que si je voulais faire un tour de piste représentatif des relations construites par les humains, il fallait que je m'attaque à un survol chronologique des relations importantes à diverses étapes de nos vies.
Bolé.
Fait qu'on y va en ordre chronologique aujourd'hui. Yes! Fait que, comme vous le savez sans doute, depuis la nuit des temps, la naissance est un moment marquant de la vie humaine. C'est un beau sujet posé, hein?
Oui.
J'ai donc choisi de puiser dans la théorie de l'attachement, qui étudie les fondements de la relation entre un bébé puis son principal caregiver, mettons. C'est un champ d'études duquel ont découlé plein de réflexions sur les styles d'attachement qui sont amplement relayés puis reformulés sur les réseaux sociaux depuis un moment puis que je vois passer souvent de façon plus ou moins scientifique. Là.
Ouais.
Mais là, j'ai fermé Instagram. J'ai lu des articles scientifiques, dont celui de Susanna Terreno, Isabelle Suarez, Eva Martens et Daniel Sampaio et Elisabeth Carlson, d'où proviennent la majeure partie des informations qui vont suivre. Donc, l'influence de la qualité de l'attachement entre un enfant et son principal caregiver dans la très petite enfance, là, donc avant un an, a des impacts sur les aptitudes relationnelles puis la santé psychologique des individus à la fin de l'adolescence puis dans leur vie adulte. Ça a été prouvé, étudié partout dans le monde. Puis les informations concordent quand même, pas juste dans les pays occidentaux, mettons.
Ah, c'est intéressant.
Ouais. En étant bébé, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est l'accès à la proximité physique puis à la disponibilité émotionnelle de la personne, du caregiver, dans le fond.
Ouais.
C'est important que l'enfant y ait accès constamment, mais l'objectif de ça, c'est qu'éventuellement, l'enfant ou l'adulte qu'elle va devenir va pouvoir être aussi rassuré par le fait de savoir que le caregiver est potentiellement disponible que par la proximité en soi.
OK.
Petite citation, là, s'il existe une histoire de vie dans laquelle l'individu a eu des occasions d'interagir avec des figures d'attachement qui ont fonctionné comme havre de sécurité, puis à travers elles de ressentir le self comme étant compétent et méritant l'attention et le soutien des autres, bien, en situation d'adversité, le recours à des relations d'aide va être plus facile.
Quand tu sais que tu peux demander de l'aide puis recevoir de l'aide, tu vas avoir plus tendance à te sentir comme bien puis à requérir à cette aide-là en tant qu'adulte.
Exact. Parce que ce sera pas... C'est pas te mettre en danger d'aller demander de l'aide.
Ouais.
Mais c'est quand même important aussi de dire et de se rappeler que même si ces réflexes-là peuvent être liés avec le style d'attachement qu'on va vivre plus tard, on n'est pas déterminé à jamais par des patterns relationnels précoces. Là.
J'ai écouté récemment le podcast Le cœur sur la table de Victor Tuaillon, puis c'est ça, elle disait ben, sensiblement ça, mais comme en d'autres mots, puis ça... Ça m'a fait vraiment une épiphanie. Là. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle disait, c'est que le type d'amour que tu vas avoir reçu étant enfant, toute ta vie, c'est ça que tu vas penser qui est de l'amour normal, mettons. Peu importe c'était quoi que tu as reçu, tu sais, potentiellement c'était pas de l'amour ou c'était de l'amour super maladroit, bien, tu vas t'attendre à ce que ça soit ça, l'amour. Fait que c'est comme un peu pour ça, des fois, qu'on répète des patterns aussi dans notre dans le reste de notre vie. Je trouve ça vraiment comme renversant, comme information.
Finalement, ces comportements-là qu'on développe pour maintenir l'accès à la personne qui s'occupe de nous, dans le fond, ils sont appropriés, ils ont des répercussions, même si le style d'attachement est désorganisé. Si,
mais oui.
En tant qu'enfant, de te taire et de presque rien demander, ça t'assure que ton parent reste proche parce qu'il n'est pas à bout. Ben, c'est quelque chose que tu apprends qui est fonctionnel, mais éventuellement, il faut développer des outils différents parce que dans le monde social adulte, ben, c'est pas fonctionnel pour nous garder bien avec nous-mêmes. Je poursuis quand même chronologiquement parce que non, on ne reste pas bébé toutes nos vies. Donc, je passe à l'enfance et à l'adolescence. À ces âges-là où la socialisation est pas mal à son pic parce qu'on vit toujours en groupe via la garderie, l'école, les camps d'été et compagnie. Puis les relations principales ou centrales de nos vies passent graduellement de nos parents à nos amis. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à s'associer aux gens de façon identitaire et non pas par nécessité de survie ou par proximité inhérente, mettons nos cousins, nos voisines et compagnie.
Ouais.
À cet âge-là, notre identité se forge par notre création de liens. On s'associe vraiment plus naturellement aux gens qui nous ressemblent sur un certain nombre de points, ce qui illustre d'ailleurs une ébauche de nos valeurs puis de la hiérarchie de nos intérêts. T'sais. Ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qu'on va rechercher chez d'autres.
Ouais.
Toi, Alex, tu te souviens-tu des raisons qui t'ont poussé, mettons, à te lier d'amitié avec certaines personnes plutôt que d'autres au primaire ou secondaire? Genre, qu'est-ce que vous aviez en commun?
Mais c'est full intéressant qu'est-ce que tu dis parce que comme... Mettons, j'ai vécu vraiment un moment de comme remise en question genre de mes relations d'amitié là, comme entre le primaire puis le secondaire parce que justement en arrivant au primaire, mes amis c'était les enfants des amis de mes parents beaucoup, tu sais, du monde que je connaissais parce que c'était d'adon puis que je pensais que c'était mes amis, mais en grandissant on avait de moins en moins de choses en commun. Puis là il y a vraiment eu une période où ce que je savais plus j'étais qui, tu sais, comme tu sais, je savais que ces personnes-là me faisait pas nécessairement du bien dans mes relations d'amitié, mais je trouvais pas des personnes qui me ressemblaient. Mais quand j'ai trouvé ces personnes-là, tu sais, je me rappelle que je suis allée vers des personnes, tu sais, plus artistiques, créatives, que je trouvais intéressantes au niveau de leur expression de leur personne, puis de leur personnalité, mettons, dans l'espace public aussi, qui avaient l'air un peu de s'en foutre du regard des autres. Tu sais, j'ai vraiment comme... Mais je me rappelle vraiment d'avoir eu une période de comme, fuck, tu sais, j'ai plus les personnes avec qui j'étais confortable, mais j'ai pas des nouvelles personnes avec qui je me sens comme stimulée puis à ma place, mettons. Ça a été full dur.
Moi aussi, au secondaire, je me rappelle que quand est venu le temps de l'album de Finissant, il y avait une section qui était la photo des gangs. Puis tout le monde avait sa gang, tu sais, c'était facile, sauf quelques-uns, une d'entre nous, puis je savais pas quelle était ma gang. Finalement, je pense que je suis sur comme 3 photos de gang, mais je sais pas encore à ce jour qui était ma gang parce que c'est difficile de s'associer avec des gens qui nous ressemblent quand on est encore en développement de qui c'est qu'on est puis qu'on le sait pas à 100%.
Mais exact!
Mais tout ça, ça se continue jusqu'à l'âge adulte, évidemment. Là, on continue de se créer des amis selon nos intérêts. Mais justement, quand on devient presque adulte, donc disons autour de la trentaine, là, c'est vraiment le pic des réseaux qui sont contextualisés. Fait qu'une socialisation qui est plus basée sur le contexte, genre les amis de la ligue de balle, les amis du rock, les collègues de travail. Mais à ces réseaux-là s'ajoutent, comme vraiment à côté, les amis au sens réel du terme, genre les relations qui peuvent être sorties de leur contexte puis consommées dans la sphère privée. Puis souvent, ces amis-là sont celles qui ont traversé avec nous plusieurs étapes de nos vies respectives sans que la relation s'en retrouve brisée, tu sais.
Ouais.
Notamment des amitiés qui sont fondées à l'enfance puis à l'adolescence, mais qui ont vécu l'épreuve du temps. Puis là, il y avait une citation qui m'a tellement touchée. Fait que là, j'ai le goût de la lire. C'est ma journée citation. Ces amitiés sont devenues à la fois plus souples, plus plastiques et plus résistantes que les relations précédentes qui restent, elles, davantage attachées à une identité actuelle stabilisée. L'importance accordée aux amitiés d'enfance, le sentiment d'exception et d'éternité qui leur est attaché, provient de ce qu'elles ont, par un dépouillement progressif des éléments contingents, atteint à une intimité et un attachement à la personne en elle-même qui leur confère une valeur particulière. La spécificité des amis d'enfance réside dans cette combinaison d'enracinement et de mobilité. Je suis tout seul que ça me touche vraiment beaucoup. Toi, ça résonne-tu pour toi aussi, Alex?
Tellement. Je sais que tu le sais, là. C'est un effet de mise en scène. Non, mais je trouve ça tellement satisfaisant de la recherche qui exprime en mots des affaires que je ressens d'une façon floue.
Ouais.
Mais c'est plus fort que l'amitié. Je trouve les amitiés vraiment qui ont traversé le temps, mais c'est plus intentionnel que la famille. Puis je trouve ça... Ouais, c'est une des choses que je trouve les plus belles au monde. Je trouve ça vraiment émouvant.
Vraiment. Je suis full d'accord. Puis théoriquement aussi, dans la théorie, c'est le type d'amitié qu'on est le plus susceptible de mélanger à d'autres groupes d'amis, mettons, parce qu'on n'est pas, confronté dans notre identité. Cette personne-là sait qu'on peut changer puis s'adapter à différents groupes. Parce que c'est normal de ne pas avoir l'exacte même personnalité avec certaines personnes qu'avec d'autres, parce qu'on s'associe selon différents traits de nos personnalités à ces personnes-là.
Ouh, intéressant.
Mais des fois, c'est quelque chose qui est stressant de relation en relation, tu sais, de mélanger les groupes d'amis parce que tu sais que tu n'es pas exactement la même personne, que tu ne communiques pas exactement de la même façon avec chaque groupe. Puis moi, souvent, je me sens super coupable de ça, comme si je me connaissais pas assez pour être toujours pareil, mais non. C'est prouvé par la théorie que c'est normal parce que, on se définit selon différents traits.
Intéressant!
Oui. J'avais le goût de vous faire une petite référence aussi à une toune d'Alanis Morissette qui est « You owe me nothing in return », parce que là, ça me fait penser à ces relations-là qu'on se doit rien, tu sais. On est là parce qu'on s'aime, puis on est là c'est tout. Je vous conseille de l'écouter juste parce que c'est bon. J'adore Alanis.
Je pense que c'est une des raisons pourquoi on est aussi bien dans ces relations-là, parce qu'on sent qu'on peut juste exister, tu sais.
Ouais. Je m'enligne vers une autre question quiz, parce que là, on arrive à l'âge adulte, dans la progression normale, vous comprenez? Parce que oui, j'étais à 30 ans, puis je disais presque adulte, fait que là, adulte, I guess que c'est autour de l'âge de 40 ans, je sais pas. On s'enligne vers la vie adulte. Je pense qu'on est déjà dedans, là. Je vais me calmer les nerfs. Bref, à la vie adulte, là, il y a un déclin global de la sociabilité, puis une diminution de la fréquentation des cercles sociaux, puis d'amis.
Ouais.
C'est le moment où nos amitiés sont vraiment basés sur une procédure élective. Fait qu'on choisit individuellement nos amis pour leurs valeurs profondes, on les considère ouais. comme des êtres à part entière, t'sais, pas comme ouais. juste des parties d'un groupe.
Ouais.
Fait que ce déclin-là, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la vie, c'est pas nécessairement un gage d'une disparition de l'amitié dans nos vies, mais vraiment plus d'une modification de ces barèmes. T'sais, on a moins d'amis, mais elles sont plus précieuses, les relations sont plus fortes.
Ouais.
Toi, est-ce que tu sens que tu es déjà rentré dans cette baisse-là au niveau de la sociabilité ou bien tu te sens encore dans ton prime à vouloir rencontrer plein de gens?
mais en fait, c'est intéressant parce que c'est justement ça que je fais en ce moment. Je fais des approches vraiment malaisantes, là, genre « Allô, je te trouve vraiment nice. On peut-tu s'attendre dessus? » En plus, en région, tu sais, il n'y a pas d'endroit public, fait que c'est comme « Tu veux-tu venir prendre un café chez nous? » Genre, t'approches, genre, parce que je trouve que la personne, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne-là, puis potentiellement de l'avoir dans ma vie, mais d'une façon vraiment comme super, justement, élective, c'est intéressant, mais ouais, je pense que je suis drette bien là-dedans, là.
T'es drette bien là-dedans, mais t'es encore à justement, vouloir fonder des relations.
Mais je fais des démarches actives, ouais.
Toujours selon l'article de Claire Bidard, certaines grandes étapes de vie qui se passent souvent à l'âge adulte coïncident avec une diminution marquée de la vie sociale, comme je disais. Mais selon toi, Alex, quels sont les deux événements qui diminuent le plus drastiquement nos contacts sociaux à cet âge-là?
OK, bien le facile, se mettre okay, en couple d'hostie, puis avoir des enfants, j'imagine.
Ah ben Chris, tu les as eu les deux. Elle explique selon les mots « le mariage ». Étant le deuxième plus marqué. Puis le plus marqué avec la diminution de la vie sociale, c'est la naissance du premier enfant. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de contrer cet isolement-là en créant d'autres modèles de famille. Le mariage, bon, ça saute bien comme étape de nos jours, fait que j'en parlerai pas longtemps. Mais la naissance d'un enfant, ben c'est tough. Moi, je pense des fois à la galère, là. Mais ouais. C'est toi même qui m'en as parlé l'autre fois, Alex. Mais
oui, mon Dieu.
Dans cette série-là, le modèle familial est vraiment différent. Puis je pense que la solitude vécue par les nouveaux parents doit être différente aussi parce qu'il y a un entourage présent.
Mais oui.
Mais là, sûrement que vous me voyez venir, là, c'est l'heure de roulement de tambour. L'input parental. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai vécu, la vie de nouveaux parents. Puis c'est vrai, la solitude qui vient avec. Les bébés, c'est cute. Ça jase pas fort, ça demande beaucoup de soins puis d'énergie. Puis même s'il y a rien de plus cute que voir leur évolution, il y a aussi rien de plus aliénant que ramasser des jouets qui lancent à terre aux 3 secondes puis qui pleurent pour avoir non-stop, on s'entend. Je vous réfère à un autre épisode de Where We At Montréal, double plug aujourd'hui pour elle, mais ça vaut la peine, où il parle de l'expérience maternelle puis c'est super applicable aux parents, peu importe leur genre, fait que je vous le mets dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai décidé de vous faire un topo le plus rapide que je pouvais, mais évidemment pas si rapide que ça, de ce qui a eu beaucoup de valeur pour moi au niveau de mes amitiés, ce que les amis ont fait, qui ont fait que mes liens d'amitié ont pu être maintenus au moment de la parentalité. Okay. Parce que je pense que ça demande autant une adaptation pour notre réseau
ouais.
que pour les parents, les gens qui deviennent parents eux-mêmes, tu sais.
Je trouve que c'est une responsabilité du... Ben, je dis ça parce que j'ai une amie qui vient d'accoucher, là, puis je pense à elle puis à son besoin de ne pas se sentir isolée. Là. Mais c'est une responsabilité du réseau de s'adapter puis oui. de faciliter ça pour la personne qui vient d'avoir un enfant. Mais j'ai hâte de t'entendre.
J'ai essayé de faire le topo avec ma coloc qui vient d'avoir un bébé aussi, puis on habite ensemble, fait que ça a été intéressant. Allô Mélissa, qui fait nos réseaux sociaux.
Yay.
OK, premier point. Je les ai pas mis nécessairement en ordre, mais premier point, maintenir le contact. Comme tu disais, Alex, c'est vraiment tough de se sentir délaissé au moment où on devient parent. Mais le temps qu'on a pour du small talk diminue drastiquement, puis l'espace mental pour du deep talk aussi, fait que c'est clair que les conversations deviennent comme plus dures. Mais les amis, mettons, qui ont continué de venir me voir ou de me parler de leur vie, même si elle a été interrompue 7 fois par les besoins des enfants auxquels j'allais répondre, ben ça a été super précieux. Fait que maintenir le contact. Deuxième point, créer des liens avec les enfants. Je pense que pour les personnes qui ont eu des enfants en temps de pandémie, ça a dû être l'élément qui a chopé le plus, là.
Ouais.
Ouais. Mais les amis qui ont perçu tout de suite mes enfants comme des nouveaux liens à chérir puis des relations à développer, moi, ça m'a touchée beaucoup. Au début, ça peut ressembler à genre se coucher à terre avec le bébé puis faire des sourires même si le bébé réagit pas. Mais plus tard, ça peut se transformer en passer chercher son ami enfant pour aller manger une crème molle, tu sais, le temps que l'ami parent, il fasse une sieste, sa vaisselle ou s'occupe des autres kids, tu sais, mais bref, pas juste considérer l'enfant comme un obstacle à sa relation avec le parent, mais comme l'opportunité de connaître une nouvelle personne puis de participer à son développement. Il me semble que c'est vraiment autant la meilleure façon de donner un break à ton ami que d'ajouter un peu de punch à ta chosen family, tu sais. Ces enfants-là font partie de vos vies.
Mais puis c'est tellement une chance, puis genre un privilège, en fait, de pouvoir avoir des amis enfants. C'est full pertinent, qu'est-ce que tu dis, de pas les voir comme des obstacles, mais les voir comme des nouveaux amis. C'est vraiment ça.
Ben oui. Puis surtout, pour, tu sais, les gens qui veulent pas d'enfants aussi, mais qui aiment les enfants, la présence de ces amis-là, particulièrement moi, dans la vie de mes enfants, c'est tellement précieux parce qu'ils ont un apport super important à leur développement. Fait que venez, jouez. Troisième point, quand même simple, accepter le changement dans la relation. C'est sûr que les discussions vont changer de sujet. On va parler un petit peu plus de caca à travers nos discussions sérieuses. Puis on va fêter un peu moins. Mais c'est normal, ça va bouger, ça va changer. Puis si la relation t'offre ça, ça va devenir une relation tellement précieuse. Et le quatrième, mais non le moindre, s'informer. Puis pas questionner l'autorité ou les décisions de ton ami parent, à moins qu'il y ait un danger pour l'enfant, même si tu t'es informé. Mais quand même, quand on devient parent, il y a plein d'affaires qu'on doit apprendre pour s'occuper adéquatement de ses enfants. Mais ça aide vraiment pas quand les gens font semblant de comprendre ou nous contredisent sans s'y connaître plus. C'est super tough. Puis des fois, on le sait pas, la réponse. T'sais, comme, on sait pas exactement comment tu vas pouvoir nous aider avec une situation super particulière dans le développement de l'enfant. Mais pour vrai, si tu passes à la maison puis que tu me jases pendant que je fais la vaisselle, ça va m'aider pour vrai.
Ouais.
C'est pas grave. Mais tu sais, s'informer un peu partout sur les sujets qui concernent la parentalité pour pas non plus être complètement prise au dépourvu si l'enfant fait des crises non-stop parce que, ben maudit, il y a 2 ans et demi. Puis
c'est normal.
Juste ça, le développement de l'enfant, ben ça nous aide.
Full bon point.
Voilà. Merci aux amis qui ont eu ces rôles-là pour moi. Je vous aime. Y a-t-il des affaires que toi, tu as trouvé tough dans cette transition-là avec tes amis qui ont eu des enfants, justement?
J'ai trouvé ça plus difficile de perdre des amis qui étaient en relation de couple fusionnelle que de voir mes amis avoir des enfants. Très honnêtement, là. Mais je pense que je vois vraiment les enfants de mes amis comme les nouveaux amis miniatures. Puis comme j'en veux pas d'enfants, fait que c'est eux les enfants que je vais avoir dans ma vie, fait que comme je les aime. Là. Mais effectivement, là, c'est tough d'avoir une conversation, mais comme je vais en avoir avec d'autres mondes pendant un bout. Puis nous, ça va plus être comme jouer toute la famille avec l'enfant, puis dans 5 ans, ben on va être capable de parler pendant plus que 30 secondes, puis ça va être correct. Non, moi, j'ai vraiment ça comme un privilège.
Avec, ben là, je continue mon topo en ligne vers le vieillissement et je pense aux aînés.
Ouais.
Parce qu'avec l'âge qui avance, à un moment donné, en étant vraiment plus vieux, ben les départs puis les décès de proches puis d'amis augmentent. Puis pour remédier à cette solitude-là, ben les aînés ont comme pas le choix de refaire appel aux aptitudes de création de relations.
Ouais.
Dont ils avaient potentiellement plus besoin depuis un moment.
Ouh, bon point.
Puis ça peut être tough. Fait que là, j'ai passé plusieurs heures sur le site de l'âge d'or pour me familiariser avec le concept de l'isolement social chez les aînés.
Ouais.
Puis, c'est ça, cet isolement social-là, il est calculé selon 3 critères. Les 2 premiers sont plus évidents, c'est le nombre puis la fréquence des rapports sociaux.
Ouais.
Mais le 3e me semblait vraiment plus sournois. Il s'agit du nombre d'occasions de jouer différents rôles sociaux.
Ouais.
Ça me ramène à ce que Maïlie disait dans l'entrevue, tu sais, une relation, ça se fait à plusieurs. Mais puis si une personne est constamment dans la position de recevoir des soins, mais pas dans la possibilité de prendre une part active à une relation, ben sa satisfaction va diminuer par rapport à son niveau de vie sociale.
Okay.
Puis il y a plein de rôles que les aînés peuvent vivre, il y a plein de choses qu'ils peuvent nous transmettre quand même. C'est important de pas juste considérer quand on passe du temps avec des personnes plus âgées qu'on les aide, tu sais. On participe à une relation, puis il faut s'en rappeler.
Ah, c'est full pertinent.
Puis toujours selon le rapport de la FADOC, les trois plus grands facteurs communs à la plupart des cas documentés d'isolement social, c'est la diminution de la mobilité, la détérioration de l'état de santé physique, mentale et ou cognitive, qui résulte en une perte d'autonomie, puis la précarité financière.
Ah oui, hein?
Puis ces facteurs-là, ben il y a plusieurs personnes qui les vivent, pas juste au moment de la vieillesse, qu'on peut vivre à n'importe quel moment de notre vie, une diminution de la mobilité, puis c'est vrai que ça a un gros impact. Fait qu'il faut juste se rappeler que ce genre de facteurs-là, puis tous les autres qui sont dans le rapport de la FADOC, ben ça peut causer des obstacles à notre socialisation. Puis ça a ça peut dériver vraiment, tu sais, la perte de ta mobilité va faire que tu vas moins aller à l'épicerie, donc tu parleras plus à des gens au quotidien. Là, si tu as plus de difficultés à te rendre à l'épicerie, tu vas moins inviter des gens chez vous parce que tu as moins de stock pour les recevoir. Ouais. Je pense surtout aux femmes plus âgées, la pression de recevoir adéquatement, c'est quand même fort. De te rendre chez le médecin, c'est compliqué, fait que là, ça peut diminuer aussi le soin de toi que tu arrives à prendre, fait que là, toi, t'es moins bien dans ton corps. Tu sais, il y a tellement d'impact, fait qu'il faut juste se rappeler au départ, c'est quoi les problématiques, puis si on peut agir là-dessus, ben là, nos relations avec ces personnes-là vont vraiment augmenter. C'était mon grand topo de la vie relationnelle des humains. Puis là, je m'enligne vers la fin parce que toute bonne chose a une fin, mais j'ai envie de parler quand même de contexte relationnel at large, peu importe notre âge, puis de référer à un épisode qu'on avait fait avec Hugues Lefebvre-Moras, dans lequel on a parlé de l'intersectionnalité qui est parfois un peu forcée dans les plus petits milieux, puis par la moindre quantité de gens aux intérêts connexes. Je pense que c'est un facteur important quand on parle de limites relationnelles aussi, parce que l'importance de soigner ces relations est exponentielle quand la possibilité d'en créer des nouvelles est plus faible.
Ah ouais.
Puis ça peut nous amener à plus de compromis, à être moins rigide dans nos barèmes puis dans nos limites. Puis tu sais, c'est pas rare, mettons, dans les milieux militants urbains ou même dans les cercles urbains d'amis politisés, mettons, de voir une personne se faire exclure pour un point de discorde qui est somme toute mineure, des fois majeure, puis ça vaut la peine, puis c'est vrai, mais des fois, c'est pas grand-chose, puis la même chose est moins fréquente en région, de mon expérience, je sais pas, toi?
Allez. Je trouve ça tough. Je pense que t'as raison. Je pense que, mettons, qu'est-ce que je remarque, là, en région, de, mettons, mon enfance, puis maintenant, c'est que tout le monde le sait, mais tout le monde a comme... Ah ouais, mais lui, il est de même. Tu sais, puis on le sait plus pourquoi, puis tout le monde est comme, il va falloir qu'on y parle. Tu sais, je sais pas, il y a comme plus un espèce d'accompagnement de la personne qui a des comportements lourds plutôt que effectivement la mettre au rebut.
Ouais, ouais. Des fois, c'est super beau puis super puissant, ces relations-là qui se bâtissent, qui se brisent, qui se renégocient puis grandissent malgré l'adversité, même s'il faut pas nécessairement les entretenir à tout prix. Puis ça me fait comme penser à la critique que des aînés ont des fois envers nos générations qui divorcent à un taux vraiment plus élevé que le leur. Puis... Tu sais, souvent, ils nous disent, mettons, qu'on a peur des chicanes, qu'on n'ose plus travailler sur nos relations. Puis je pense que c'est pas injustifiable de mettre fin à une relation qui dépasse nos limites, puis c'est un point positif de nos générations. Mais je suis un petit peu critique de la rapidité des fois avec laquelle on fuit la conversation constructive ou le compromis sous le couvert de la radicalité, surtout dans les cercles militants. Puis des fois, j'ai l'impression que ça découle plus de la facilité que de la radicalité, fait que je pense qu'il faut se questionner là-dessus, mais j'ai pas de réponse. Évidemment. Avant de finir, je vous recommande une couple d'œuvres qui mettent en évidence des modes relationnels différents. Je vous conseille Pose puis Tales of the City,
oui,
qui sont deux séries, ou un livre. Tales of the City, c'était un livre avant, mais qui sont super touchants puis qui illustrent full bien le concept de famille choisie. Fait que ça peut vous inspirer. Et je vous suggère d'ajouter à votre liste d'écoute le bon classique d'Isabelle Pierre, Le temps est bon, qui est une de mes chansons préférées.
Moi aussi!
Toi aussi, tu l'aimes?
Oh mon Dieu, je l'aime tellement, cette chanson-là. On l'écoutait tout le temps avec mon coloc avant.
Fait qu'on vous conseille de l'écouter, vous autres aussi. Puis un autre jour, je vous parlerai de non-monogamie, parce que ça aussi, c'est ma solution à construction de relations de couple. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que faut qu'on se taise. Faut-tu qu'on se taise?
C'est-tu tout qu'est-ce qu'on avait à dire?
Je sais pas. Sûrement pas.
Les relations, là, c'est complexe. Tu prends deux ou plusieurs personnes multidimensionnelles, semi-fonctionnelles, avec leur propre vécu, tu crées ça ensemble, puis bam! Un beau cocktail de trauma response, coping mechanism et comportement autodestructeur. Bon, j'abuse un peu, mais parlant de trauma, une chose que je trouve extrêmement importante d'aborder, c'est les relations biraciales hétéro, plus spécifiquement homme blanc, femme noire. That right there can become a shit show really fast. Les dynamiques de pouvoir telles que oppressé, oppresseur, marginalisé, privilégié ne font pas abstraction des relations interpersonnelles. D'un point de vue sociopolitique, l'homme cis du couple reste au top de l'échelle sociale, puis la femme noire cis, elle, reste au début de la fin de cette échelle. Puis si c'est pas abordé, compris et surtout assumé, ben ça peut devenir crissement dangereux, crissement rapidement. Je parlais sur Insta avec un gars bien random, puis on s'est mis à parler de type de relation et d'identité émotionnelle, puis il m'a dit en tant qu'homme blanc que dater une femme noire, ben c'était fucking rushant ou quelque chose du genre. Puis pour vrai, il a raison. Il faut un rien pour tomber dans des dynamiques de pouvoir, surtout raciales, puis ça, c'est avec la dynamique de pouvoir homme-femme en sous-entendu, on s'entend. Puis le potentiel toxique de ce type de relation varie selon la capacité de la personne à reconnaître et travailler sur les aspects alimentant cette dynamique. Je trouve ça important, par contre, de dire que c'est pas toutes les personnes noires qui sont politisées ou qui naviguent le monde au travers de cette lentille. Puis la seule différence en termes de relations toxiques, c'est que c'est un peu plus tricky à cerner parce que les notions de dynamique de pouvoir sont pas nécessairement acquises. So yeah, you gotta work. Parce que de pas le faire résulte inévitablement à de la violence émotionnelle, mentale et même sexuelle. J'ai daté un gars, puis en repensant aujourd'hui, it was such a mess. So, il était blanc, obviously, parce que sinon l'anecdote, elle serait juste pas pertinente. Puis le sujet de la race, la dynamique de pouvoir revenait constamment. Puis cette conversation est inévitable. Le problème, c'est cette peur slash refus de se faire identifier par le groupe social auquel il appartient, les blancs, et de deux, prendre responsabilité venant avec cette identité d'homme cis blanc venant d'une famille relativement aisée. While we are all our own person, we're also part of a society built on a long history of oppression and violence that was justified with the race idea. C'est une histoire tellement longue qu'elle opère encore aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée dans une situation de emotional labor constant, en plus d'avoir mon anxiété en high et d'être en trauma response all the time. And that wasn't cute on my end, je dois l'avouer. Une des choses que j'ai appris de cette relation, c'est que, ben, ton anxiété, ben, ça peut devenir un allié. En passant, le vite, vite de même, dater avec un trouble de l'anxiété généralisée, c'est rough. Dater un gars blanc en tant que femme noire avec un trouble de l'anxiété généralisée, j'ai même pas de mots pour ça. But you know, you gotta love them chads. Puis, si t'as pas compris la blague, c'est pas grave, là. C'était pour les auditeurs noirs anyways. Donc, mon niveau d'anxiété était un warning signal. Puis, parlons d'emotional labor, de trauma, d'anxiété, puis de limites, là. La communication. We gotta talk about that. Perso, je suis une grande fervente de ce qu'on appelle brutal honesty et de l'écoute active. Ce sont deux choses que j'ai appris avec le temps puis que j'apprends toujours à ce jour parce que, ben, tu sais, je considère qu'apprendre, c'est l'affaire de toute une vie puis un de mes goals dans la vie, ben, c'est de constamment devenir une meilleure version de moi-même, tu sais. Enfin, bref. Nous n'avons collectivement pas appris à communiquer, entre autres à cause de notre conditionnement social, genré et racial, pour ne nommer que ça. Selon moi, une des nuisances de la communication, c'est de ne pas être en mesure d'exprimer ses émotions, oui, mais ne pas être en mesure de recevoir celles des autres. Puis, je mets la faute sur notre société capitaliste qui roule sur les oppressions systémiques, oui, mais sur la place que prend notre ego dans la communication. Ça, et vous l'aurez deviné, l'inconfort. Personnellement, je considère que c'est la place que prend notre ego plus que notre ego en tant que tel qui peut être problématique. Puis autour de moi, j'ai des personnes qui ont été conditionnées, peu importe de quelle manière, à rejeter le tort ou la responsabilité, puis des personnes qui ont été conditionnées à se faire petit. Fait il y en a un qui est inconfortable d'avoir tort, puis l'autre est inconfortable de rendre l'autre inconfortable. La triste réalité là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui veut travailler là-dessus, puis les hommes cis sont une grande part de ceux qui ne veulent pas travailler là-dessus. Puis ça, je le mets sur le dos de l'hétéronormativité et du colonialisme. Sans entrer en profondeur sur à quel point le colonialisme s'est fucked up, un des narratifs ayant été imposé aux communautés colonisées est celui de l'hétéronormativité. Avant la colonisation, les relations liées au genre et au rôle entre guillemets attribués par ceux-ci étaient très différents et beaucoup plus sains d'ailleurs. En gros, autant que la race est une construction sociale ayant été inventée strictement pour justifier les atrocités imposées à plusieurs communautés, autant que l'hétéronormativité a été introduite comme moyen de contrôle. Puis à mon sens, la progéniture de cette invention est nulle autre que la monogamie toxique et tous les mythes qui l'entourent. Quand je parle de monogamie toxique, je fais référence à tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'amour fusionnel, ne former qu'un, trouver sa tendre moitié. Attention, même si moi, entendre ces termes-là, ça me fait grincer des dents, je dis pas que ces concepts sont en soi toxiques. Le potentiel toxique est dans la notion sous-entendue et parfois même très explicite de la possession. Que l'autre nous appartient. Que l'autre devient le centre de notre univers et notre monde en entier. Déjà, alerte à la codépendance. Et deuxièmement, yo, la pression! La pression posée sur le couple, sur les membres du couple, sur nommer la chose, ce qui devrait être simple. Soyons clairs, c'est impossible qu'une seule et unique personne puisse répondre à tous nos besoins. Comment on la gagne? En tout cas, combien de fois on a entendu les « je savais plus qui j'étais » ou encore les « je ne me reconnaissais pas ». Puis parfois, ça se fait tout seul. Puis compte tenu de la manière dont nous avons été conditionnés, it does make sense que ça se fasse tout seul. Maintenant, on ajoute à ça la dimension du contrôle de l'intimité. Ça, je parle de tous les « ah ouais, elle veut plus que je vois mes amis gars » ou encore les « elle veut plus que je parle à telle personne » ou « que je sorte sans elle » puis les « il aime pas quand je m'habille comme ci, comme ça » ou encore les « on se donne l'accès à nos téléphones et nos réseaux sociaux ». Monogamie toxique. I'm gonna say this once. La sexualité et les sentiments ne sont pas codépendants, contrairement à ce que notre conditionnement nous a appris. L'identité et les besoins émotionnels d'une personne ne vont pas nécessairement être liés à leur identité sexuelle ou même à l'identité des autres personnes impliquées dans la relation. Puis c'est correct. Puis c'est là qu'on peut lier tout ce qui a été mentionné plus haut et ce qui a été mentionné dans l'échange de Maëlle et Laurie, selon ma compréhension de la chose. Dans le fond, la différenciation fait référence à l'écoute autant de soi que de l'autre et à l'honnêteté autant envers soi-même et envers l'autre. Une autre chose qui m'est restée de la conversation avec le gars random sur Insta, c'est que tu peux avoir une identité émotionnelle, mais être capable d'en naviguer plus qu'une. Par exemple, lui, son identité, c'était la monogamie, mais il était confortable et apte à naviguer le polyamour. Ou encore moi, quand je me projette, le type de relation qui semblerait être mon idéal serait une relation émotionnellement monogame, mais sexuellement ouverte. Fait qu'au final, brutal honesty is the shit, parce que nos identités relationnelles et nos besoins changent et évoluent. Une relation avec une personne peut inspirer une chose, tandis qu'une relation avec une autre personne peut inspirer autre chose. Autant que l'identité d'une relation d'une personne avec une ou d'autres personnes peut changer avec le temps. Sur ce, je vous dis à la revoyure, et si jamais quelqu'un s'est senti inconfortable, à un moment donné ou à un autre, qui elle aille s'asseoir sur son sofa avec son inconfort ou qui fasse appel au service de Your Black Best Friend, un service d'accompagnement pour personnes blanches et non noires par rapport aux compréhensions de la négrophobie et de la déconstruction des biais inconscients liés à ça. Une initiative de Yours True. Check it, please.
Merci à Myriam Gabrielle Archin de nous avoir coupé la parole. C'est toujours apprécié. On est vraiment contente de t'avoir. On dit qu'on veut sortir de nos cercles, mais je suis bien contente que tu sois restée dans le tien, Laurie, puis que tu aies invité ton amie aujourd'hui. Merci beaucoup à Maëlie Giroux-Dubois de nous avoir apaisés via l'entrevue du jour. Merci à Myriam Gabrielle Archin pour son nouveau segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise Vendée pour les jingles, avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June pilote aux percussions. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel, à Cassandra Cacero pour nos photos, à Marin Blanc pour le graphisme. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Ève-Laurence Hébert pour la coordination et Mélissa Elmer à la gestion des médias sociaux. Merci à Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web. Et merci à Émilie Duchesne-Perron pour la transcription des épisodes.
Third World, and we're celebrating 40 years of reggae music. Keep listening to CKUT 90.3 FM. Whoa, 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 yay! Them are the reggae ambassador. Hey, don't forget, CKUT 90.3 FM. Bonnie Rogue said that.
Hi, I'm Andre Goulet. You're listening to Harbinger Showcase. Harbinger Showcase is a weekly podcast syndicated to community and campus radio, including Toronto CIUT, Winnipeg CKUW, Montreal CKUT, and Vancouver Co-op Radio, and featuring highlights in the country's favorite progressive podcast community. Since launching in 2020, the Harbinger Media Network has become Canada's number one listener-supported nonprofit podcast network, featuring 66 shows exploring politics, society, and culture from a progressive perspective. Support the community for just $5 a month and get a new release from Between the Lines Books or Fernwood Publishing at harbingermedianetwork.com. On this episode, it's another spectacular edition of the Harbinger Soapbox Series live podcast recording and community event. But first, do you know regeneration? Regeneration is a group of impact-focused students and young professionals fighting to open doors for the next generation of sustainability leaders. Regeneration is reimagining schools by developing action toolkits for student leaders across the country, repurposing careers by building development tools for students and young professionals who want to contribute to a more sustainable and just society, and remodeling companies by empowering young employees to create internal change and advocate for public policy that advances a regenerative economy. Formerly the Canadian Business Youth Council for Sustainable Development, Regeneration's recent manifesto changed campus discourse to shift towards a bold yet super professional approach to working towards building a more regenerative and just world.